Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Au cœur d'un magnifique dimanche, il est 10h08, vous écoutez RMC. Merci infiniment de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous écouter en direct, également en podcast. Nous sommes là le samedi, le dimanche, de 9h à midi. Si vous avez raté la première heure, évidemment, on a débriefé ce tournoi destination et cette victoire du 15 de France. On en reparlera dans cette émission. Évidemment, allez nous réécouter tranquillement cet après-midi. Toujours avec Cédric Emans, Pascal Duprat, Philippe Saint-André, Simon Dutin dans quelques instants. Nous allons revenir sur le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 disputé en Australie. C'était très tôt ce matin. Lando Norris s'est imposé. Jean-Luc Roy, notre spécialiste, sera avec nous dans une poignée de secondes. 10h30, retour au rugby. Et cette question, avec deux tournois en quatre éditions, avec des records à l'appel, est-ce que ce 15 de France est déjà entré dans l'histoire? Les GG ne sont pas d'accord. Et puis 10h45, vous le savez, vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous proposez un débat, c'est soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Et c'est évidemment à nos chers auditeurs de décider, de savoir qui va s'imposer. Cédric Emans, tiens, tu nous proposes quoi aujourd'hui?
Moi, je voudrais revenir sur la prise de position du sélectionneur anglais de foot, Tourell, qui remet en place Grealish un peu sur ses sorties. Donc, ma question, c'est peut-on être sportif de haut niveau et nightclubber? Je ne parle pas de consommation d'alcool, je parle de la petite sortie qui permet...
Bon, lui fait les deux.
permet, et je vais tout vous dévoiler sur l'aspect mental.
Toi, t'as réussi, donc pourquoi pas...
Je vais tout vous dévoiler sur l'aspect mental d'une bonne semaine de préparation. Votez pour moi.
Ça, c'est du teasing. Grealish remis à sa place. Ok. Philippe, on propose quoi aujourd'hui?
Et si la star de l'équipe de France était Louis Bielbarré? 8 essais dans le 6 Nations. Lui, il a fait un grand chelem car il a marqué un essai minimum à chaque match. J'ai vraiment envie de parler de ce phénomène, donc votez pour moi.
Est-ce que bébé Louis Bielbiarré est en train de surpasser, peut-être même de dépasser un jour Antoine Dupont? C'est la proposition alléchante de notre ami Philippe Saint-André. Pascal Duprat.
En fait, moi, j'ai pas digéré le 8% que j'ai fait la semaine dernière. Donc, je vais demander aux auditeurs de pas réitérer leur vote, s'il vous plaît. On arrête de parler de rugby. Moi, j'aimerais parler de biathlon et de biathlon féminin. Parce que Lou Jean Monod, hier, en gagnant la Mastart en Slovénie, elle s'est repositionnée pour l'acquisition du gros globe. Il reste une manche, c'est en Norvège, et tout le monde va regarder ça la semaine prochaine parce qu'elle est à 20 point de Francesca Preuss. Elle peut remporter le gros globe à 26 ans. Voilà. Donc, s'il vous plaît, votez pour moi. On parle de nana, on parle de biathlon, on parle pas de Haut-Savoyarde ou de Savoyarde, même s'il y en a beaucoup. On parle d'une franc-comtoise qui domine la spécialité.
C'est bien vendu.
Voilà.
C'est
pour toi, c'est Pascal. Merci les gars.
Il ne vise pas les 8%, mais les 9%. Bravo, Pascal.
C'est un peu long, non?
C'est parce que la semaine dernière j'étais un peu court.
Non mais tu peux en parler que maintenant. Tu n'auras pas le temps d'en parler.
T'as fait limite hors piste, toi. Hors piste, là, c'était limite.
Simon Dutin.
Mais tu vas presque me faire regretter d'avoir changé au dernier moment mon fusil d'épaule, c'est le cas de le dire, parce que moi j'allais proposer au départ les Français gagnent tout en biathlon. Est-ce que c'est devenu ennuyeux, chiant même? Donc, mais ça n'aurait pas plu à Pascal. Donc je suis allé sur le football. Désiré Doué, le phénomène du Paris Saint-Germain, son jeu ultra spectaculaire, son efficacité, son sang-froid, on l'a vu à Anfield. 19 ans seulement, peut-il devenir la méga star du football français, sous-entendu devant un certain Kylian Mbappé?
Sélectionné pour la première fois en équipe de France, Désiré Doué, et on parlera du classique à partir de 11h. Allez voter, ce sera à 10h45, vous avez encore une belle demi-heure devant vous sur le compte X des grandes gueules du sport. Un proverbe australien, cette circonstance pour débuter cette nouvelle heure: le repas de l'un est poison pour l'autre.
La bataille fait rage dans le dernier tour entre Lando Norris, le vice-champion du monde avec sa McLaren, l'homme qui avait signé la pole position, et Max Verstappen. Et Norris va tenir, oui, Norris va franchir maintenant le drapeau à damier. Il remporte la 5e victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la première de la saison 2025. Verstappen termine à 8 dixièmes exactement. Le 3e, eh bien, ce sera George Russell, le britannique, avec la Mercedes. 4e, Albon. 5e, Antonelli, le meilleur des rookies, avec l'autre Mercedes. Stroll est 6e, Hülkenberg 7e, du côté des Ferrari, Leclerc 8e, Piastri 9e et Hamilton 10e. Malheureusement, Pierre Gasly n'est pas parvenu à conserver le point de la 10e position jusqu'au bout. Un Grand Prix décidément très mouvementé.
Oh oui, très mouvementé. Le premier Grand Prix de cette nouvelle saison de Formule 1 était très attendu, vous le savez, et il a viré au chaos. La pluie s'est invitée à Melbourne et a largement perturbé la course. Dans ces conditions, vous l'avez entendu, c'est Lando Norris qui est même passé tout près de la catastrophe, mais qui s'est imposé devant Max Verstappen. Le match est déjà lancé entre les deux pilotes. On va parler de Ferrari, des Français, et puis de ce malheureux Isaac Hadjar, le rookie tricolore qui s'est crashé dans le tour de formation. Jean-Luc Roy et de nouveau avec nous sur RMC. Bonjour Jean-Luc.
Oui, salut JC, salut toute la bande.
Salut Jean-Luc.
On attendait avec impatience ce premier Grand Prix de la saison. Est-ce qu'on a déjà des enseignements clairs, mon cher Jean-Luc ?
Ah ben oui, il y en a au moins un. Alors eux, ils voulaient pas qu'on le dise, mais c'est que les papayas, les oranges sont les plus forts. On l'avait bien compris déjà après les 3 jours d'essai qui s'étaient déroulés à Bahreïn au mois de février, où dans toutes les conditions, que ce soit avec peu de carburant sur un tour, et puis quand ils faisaient des simulations de course, eh bien à chaque fois, ils étaient les plus rapides. On a vu qu'ils avaient signé les meilleurs temps, puisque Lando Norris avait la pole avec Oscar Piastri à ses côtés. Et puis dès que la piste a été un peu libérée, ils avaient un rythme qui était nettement plus rapide que celui que Verstappen pouvait imposer. Verstappen avait pris un excellent départ. Alors, si je vous raconte toutes les péripéties de ce qui s'est produit pendant ce Grand Prix...
Non, on est là jusqu'à 16h.
On est là jusqu'à
16h. C'est ce que j'allais dire. Donc, je la fais brève. Bon, Verstappen était le seul capable véritablement sur la piste de s'y opposer. Et puis, après, il y avait des histoires de stratégie. Il y a eu, tu l'as rappelé tout à l'heure, effectivement, une erreur d'Oscar Piastri. Finalement, il s'en sort bien parce qu'il arrive à rentrer dans les points et finalement, il termine 9e. Quant à Norris, il a tenu bien la barre et il démontre que là, cette année, évidemment, entre lui et Verstappen, ça va être une bagarre à couteau tiré. Derrière, un cran en dessous, il y avait Russell. Et puis, je crois que Ferrari mérite un chapitre à part. On y reviendra peut-être un peu plus tard.
Bien sûr, on va en parler dans quelques instants de Ferrari. Mais là, de voir, pour vous, les GG, peut-être que vous avez une question pour Jean-Luc Roy, mais de voir cette bataille lancée entre Lando Norris et Max Verstappen, est-ce que ça vous excite ou vous attendiez peut-être autre chose de ce Grand Prix et peut-être que les Ferrari se mènent à la lutte?
Évidemment, on est ravis. C'était les mecs qui étaient en haut en fin de saison dernière. On sait qu'évidemment Ferrari va tout faire pour se mêler à la lutte. Bon, tu parlais d'enseignement. Là, moi, je parle sous le contrôle du King, évidemment. Un Grand Prix sous la pluie, ça reste quand même toujours un petit peu particulier. C'est Toto Wolff, le patron de Mercedes, qui l'a rappelé. L'important, c'est de terminer. C'est d'abord de terminer. Et tous les mecs qui ont abandonné peuvent en témoigner. On va reparler de Ferrari donc tout à l'heure, mais je sais pas, moi je trouve ça sympa de mettre l'accent d'abord sur le pilotage pur et puis un petit peu la stratégie parce que le temps a pas arrêté de changer. Donc en fin de course, ça s'est joué quand même à un tour pour certaines écuries. Tu t'arrêtes un tour trop tard, et ça fait plusieurs places de différence sur la grille. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt que ça se joue uniquement sur les performances mécaniques qu'on avait déjà entrevues en préparation.
Bah, c'est vrai qu'aussi pour les néophytes, mais même voir ce genre de Grand Prix, en plus pour le premier Grand Prix de la saison, on n'est pas forcément habitué avec tout qui peut se passer dans les derniers tours de course. Ça, c'est plutôt prometteur pour la suite de la saison, même s'il n'y aura pas tout le temps de la pluie. Cédric Emmons.
Oui, en tous les cas, les conditions météo nivellent, on va dire, le niveau. Je ne sais pas, à un moment donné, je regardais quand même parce que j'avais vu les sujets. C'est Charles Leclerc qui, soit en essai ou en qualification, a été premier sur
séance d'essai libre, oui.
La deuxième séance d'essai libre, absolument.
Exactement. Oui. On sait que les McLaren l'année dernière ont fini premier. Ils ont un temps d'avance sur la mécanique, sur la voiture, sur la maîtrise de leur mécanique. Ça veut dire quoi? Ils ont pris les commandes et ils vont dérouler. Charles Leclerc pour revenir, c'est quoi? C'est déjà joué d'entrée. C'est sinon ça va être. En fait, ça,
oui,
ça va être chaud,
que McLaren est trop fort. Vas-y, Pascal.
Ouais, pardon. J'ai l'impression que les positions ont pas changé par rapport à l'année dernière. Mais c'est bien normal parce que les voitures, elles sont connues. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Je crois qu'il y a beaucoup de modifications qui sont prévues pour l'année prochaine. Tu m'arrêtes, Jean-Luc, si je me trompe. Mais j'ai l'impression qu'on a une voiture qui domine. Et puis, on a le meilleur pilote du monde qui est Verstappen qui va s'accrocher. Et on va voir ce duel entre McLaren, Verstappen arbitré peut-être par les Ferrari. Voilà, j'ai l'impression qu'on va revoir ce qu'on a vu l'année dernière.
Ce qui n'est pas forcément tout le temps bon signe, hein, alors qu'on attend beaucoup aussi de Ferrari. Avant de parler de Ferrari, est-ce que tu abondes en ce sens? Est-ce qu'on va se retrouver avec ce duel inévitable, Jean-Luc?
Bah écoute, ça prend cette tournure-là, oui. Alors, juste une petite modif, c'est le cas de le dire. Les ingénieurs, eux, te disent que la Ferrari est nouvelle à 99%. Alors, malgré tout, tu as raison sur le fond, c'est-à-dire que le grand changement réglementaire, c'est bien pour 2026, mais on s'est remis en cause, et même chez McLaren, ce qui est paradoxal, parce qu'effectivement, la monoplace dominait très largement toute la deuxième partie de la saison, c'est peu de le dire. D'ailleurs, à un point tel que Verstappen n'a été champion que parce qu'il avait remporté des courses dans la première moitié de la saison, et enfin il en a remporté deux quand même sur la fin, mais je veux dire heureusement qu'il avait de l'avance. Eh bien, on a remis en cause, et ça c'est courageux de la part des ingénieurs de McLaren, on a remis en cause la monoplace et on a réussi à grappiller, parce que en fait, tu sais, le problème de la Formule 1, c'est que rien n'est dans l'absolu, c'est toujours par rapport aux autres. Donc en clair, tout le monde a progressé, et du coup McLaren a réussi à progresser un petit peu plus que les autres.
Bon, vous voulez tous parler de Ferrari, et on le comprend, hein, avec tout ce tapage et ce mariage du siècle entre Lewis Hamilton et Ferrari. Sachez donc que Charles Leclerc a terminé 8e, Lewis Hamilton dans les points tout de même, mais 10e, alors qu'à un moment donné, dans ce chaos, eh bien Lewis Hamilton s'est retrouvé en tête un peu par hasard de ce Grand Prix. Et puis il y a une stratégie de Ferrari, tu vas nous dire ce que tu en penses, évidemment, Jean-Luc Roy. Mais juste avant, écoutez Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie, et puis Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Après ce premier Grand Prix, c'est au micro du diffuseur Canal+.
Aujourd'hui, la stratégie n'était pas facile, mais on a pris de mauvais choix à la fin. Faut pas se voiler la face. Voilà, on a perdu. Bon, maintenant, il reste 24 courses ou 23 courses et il faut regarder devant.
Pour moi, ça a été une course d'apprentissage. C'était un test. Mais un test très difficile. Mais bon, je vais le traverser. Je suis heureux que ce soit fini. Et maintenant, je vais pouvoir effectuer des changements à la voiture.
Il faut que je sois meilleur que les autres et je ne l'ai pas été aujourd'hui, clairement. Donc, ça, c'est la première chose à pointer du doigt. Après, ensuite, toujours difficile d'avoir la stratégie parfaite dans ces conditions-là et d'anticiper exactement quand est-ce que le nuage où il y a vraiment beaucoup de pluie arrive sur la piste. Il ne faut pas trop qu'on s'en veuille sur ça. Mais par contre, il faut que je m'en veuille pour l'erreur. Ça nous a coûté bien 4 places. Donc, ça fait mal.
Ça fait mal. Rappelle-nous et explique à tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils n'ont pas vu ce Grand Prix, la stratégie ratée de Ferrari. C'est pas une première, hein, dans l'histoire de Ferrari, même dans l'histoire récente de Ferrari. Lewis Hamilton va devoir s'habituer, hein, au problème de stratégie de Ferrari, Jean-Luc.
Alors pourtant on avait bien progressé, ça remonte à quelques années où il y avait eu des erreurs coupables effectivement et des erreurs criantes. Là ça n'était plus trop le cas les dernières saisons. Alors bon, comme l'a dit avec beaucoup de franchise Fred Vasseur, parce que vraiment lui aussi n'a jamais la langue de bois, bah, c'est tout simplement quand la pluie s'est remise à tomber, c'est-à-dire tous les pilotes ou presque se sont arrêtés au 45e tour pour remonter des pneumatiques intermédiaires, des pneumatiques prévues pour une piste humide, pas les full wet mais pour une piste humide. Et du côté de chez Ferrari, eh bien on a laissé les pilotes en piste, ça veut dire qu'on a attendu deux tours de plus, on s'est arrêté au 48e tour pour être précis, pour Leclerc et pour Hamilton, et donc c'est dans cet intervalle qu'ils étaient en tête, bien sûr, puisque tous les autres sont repassés par la voie des stands, mais on savait bien que ça n'allait pas durer puisque la piste était en train de se mouiller. Alors Hamilton a mis une petite critique, d'ailleurs il en a mis plusieurs pendant la course en disant à son ingénieur, mais arrête de me parler, parce qu'il lui disait beaucoup beaucoup de choses, et à l'inverse il lui a reproché de ne pas l'avoir averti quand la piste s'est mouillé dans une partie et pas dans une autre. Donc il a été surpris de découvrir cette piste très humide avec des pneumatiques prévues pour le sec. Donc évidemment c'était extrêmement problématique, et comme on s'est arrêté deux tours trop tard, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé très loin. Alors après, Charles a même commis une erreur, donc il est parti en tête à queue à un moment, c'est là qu'il parle de ses 3-4 places de perdu. Mais je dirais que l'erreur, il l'avait reconnue aussi, c'était même en qualif, parce que comme on rappelait tout à l'heure qu'il avait été le plus rapide, il aurait dû partir beaucoup mieux sur la grille, hein, qu'il n'était. Il était seulement 7e sur la grille, et Charles il aurait dû partir sur la deuxième ligne, il aurait dû partir à la place de Russell, 4e, et là ça change tout. Donc bon, il y a eu, on va dire, pas mal d'erreurs commises. Maintenant, ils amènent quand même les deux monoplaces à l'arrivée, et puis on espère, parce qu'on adore tous Ferrari, qu'ils vont se remettre dans le coup dès le Grand Prix de Chine, hein, c'est dans quelques jours là.
C'est ce que j'allais dire, Jean-Luc, ils sont dans les points, bon, même si Hamilton évidemment il n'était pas satisfait.
Enfin, on va pas se satisfaire de 8e et 10e.
Non, mais d'accord, Ferrari, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un effet de loupe. Il y a un effet de loupe, évidemment, comme chaque saison sur les performances de Ferrari, a fortiori avec l'arrivée de Hamilton. Bon, Frédéric Vasseur, au micro du diffuseur, il a sorti le fouet clouté, quoi, pour se, tu vois, se punir lui-même. Il a quand même dit, on a été minable, machin, l'erreur de stratégie. C'est quand même pas comparable, tu sais, au double arrêt, quand Leclerc était déjà arrêté, ou Sainz était déjà arrêté, qu'ils ont fait rentrer Leclerc. Je veux dire, là, il t'explique clairement que.
Décision tout de suite et c'est compliqué.
La pluie, le nuage, en fait, la pluie, elle tombait pas au même endroit, enfin pas partout avec la même intensité au même moment. Et ils font le pari de rester en slick. Alors il reste 2 tours de trop en slick. Mais Jean-Luc, je parle sous ton contrôle. Ça, ils sont passés pas loin d'un coup de génie, parce que s'ils restent en slick et que l'orage s'arrête, c'est eux qui remportent la bourriche, quoi. Et ils font 1-2.
C'est exactement ça.
Donc je trouve qu'on est un peu dur de, tu vois, je trouve, avec ce qu'on considère comme une erreur.
Et Vasseur a été le premier à,
voilà. Je pense qu'il avait pas trop envie de se faire engueuler par Hamilton, non, peut-être.
Est-ce que c'est fou d'entendre Lewis Hamilton dire non mais pour moi c'était une première course de rodage, ce qui peut s'entendre, mais quand on est septuple champion,
on dirait que c'est un rookie.
On dirait que c'est un rookie.
Il est très humble, très humble par rapport à l'histoire de Ferrari. Et puis surtout, effectivement, il a dit qu'il avait dû modifier son pilotage pour exploiter au mieux le châssis, la Ferrari. D'accord. Faut savoir que le moteur aussi, il a toujours roulé avec des moteurs Mercedes depuis qu'il est en Formule 1. Toujours, depuis 2007. C'est la première fois qu'il a un moteur avec des caractéristiques quand même un petit peu différentes. Et puis surtout, il y a tellement de réglages possibles sur une Formule 1. Quand il demande à son ingénieur de faire quelque chose, il ne sait pas encore exactement ce que ça va produire sur la voiture.
Non mais ça, voilà, il y a une période d'adaptation, personne ne dira le contraire, mais de l'entendre en disant, j'ai l'impression qu'il dit ça pour pas parler de la stratégie de Ferrari, c'est-à-dire qu'il dit non, mais c'était mon premier Grand Prix pour pas essayer
politiquement
de mettre
correct.
Une mine tout de suite. Oui, Philippe.
Moi j'ai des questions à poser à Jean-Luc sur les Français. Ça n'a pas été une super journée pour les Français, et puis pour Isaac Hadjar, j'ai l'impression que c'est pas quand même la meilleure façon de rentrer dans le monde de la Formule 1.
Alors avant que tu répondes justement, Jean-Luc, je rappelle que Pierre Gasly a échoué aux portes des points, 11e. Isaac Hadjar, on attend beaucoup de ce jeune tricolore, mais bon, c'est pas Lewis Hamilton là pour le coup, c'est un vrai rookie. Je le disais, il s'est crashé lors du tour de formation en essayant de faire chauffer ses pneus, et il est parti dans le décor. Écoutez-le au micro de Canal+.
Je suis juste gêné et désolé pour l'équipe. Une erreur, juste, ça ne m'en revient pas, quoi.
C'est horrible pour lui, Jean-Luc.
Ah bah oui, là honnêtement, ça pouvait pas être plus terrible que ça, parce que il avait mené jusque là un bon week-end, vraiment solide, hein. Il était qualifié pas mal du tout, il était 11e, donc aux portes de la Q3, il y avait des points à aller chercher, et puis bah malheureusement il fait la grosse bêtise pour
rester poli. C'est l'erreur de cadet, c'est ça.
Ouais, on a presque l'impression dit une erreur de il veut pas dire débutant, mais on sent que pour lui c'est la boulette.
Mais c'est une erreur de début, enfin il débute en Formule 1.
Bah, le pauvre, il pleurait après,
il veut prendre aussi ses responsabilités.
Cette image très forte, hein, Jean-Luc, hein, avec le papa de Lewis Hamilton qui est venu le réconforter dans les stands après sa sortie.
Eh oui, on voyait qu'il pleurait, il était agité de sanglots, il n'enlevait pas son casque, hein. Il est cramoisi, là, vraiment. Et Laurent Méquies, qui est le patron français de cette équipe RB, a dit on va l'entourer, il faut rebondir là-dessus. Et évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Quand on fait une erreur, déjà, il l'admet, c'est déjà une bonne chose. Il y en a plein d'autres qui ne les admettent pas forcément. Et puis ensuite, effectivement, ça va être oublié dès qu'il va aborder la Chine, et il faut capitaliser
sur il est honteux.
Est-ce que ça peut peser sur
sa confiance,
sur l'évolution qu'on lui souhaite la plus belle possible, mais est-ce que ça peut peser sur son prochain départ Tour de Chauffe
en deux mots, Jean-Luc?
Vous avez tous été des champions, et vous savez quand on commet une erreur comme ça. Puis alors, elle était spectaculaire, hein, parce que du coup le départ a été retardé de plus de 15 minutes uniquement à cause de lui.
Les projecteurs sont sur lui, quoi.
Et ouais, là c'est clair que oui, c'est facile de dire non, on repart à zéro pour le prochain Grand Prix. Non, je pense que en plus vous connaissez la politique de Red Bull comme moi, hein, le docteur Helmut Marko qui est pas un tendre. Faudra pas qu'il la refasse très souvent celle-là, à mon avis, si vous voyez ce que je veux dire.
Il donne des ailes, hein, mais il donne aussi des coups de fouet. Hein,
Il s'est mis une pression.
Énorme. Merci beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été avec nous pour nous débriefer premier Grand Prix de la saison.
On repart la semaine prochaine après la Chine.
Mais évidemment, et puis tu seras tout au long de la journée, notamment dans Bartoli Time ce soir à partir de 19h30, dans nos différentes émissions pour revenir sur ce premier Grand Prix de la saison. Merci beaucoup, Jean-Luc, et donc la Chine le week-end prochain, évidemment, que l'on attend avec impatience. Un petit tour par le ski alpin avec la première manche du slalom. On vient entériner le résultat avec toi. Où en est Clément Noël, alors, dans ce classement, Morgane Maurice?
Clément Noël est 4e. quatrième à 52 centièmes du Suisse Loïc Meillard, le champion du monde de slalom, vainqueur hier du slalom géant. Meilleur chrono pour Loïc Meillard devant le Brésilien d'origine norvégienne à la maison, Lucas Pinheiro Braten, 34 centièmes derrière Meillard. Troisième position pour l'Autrichien Fabo Strein. Clément Noël est quatrième, il est deux places et trois dixièmes devant Henrik Kristoffersen, avec qui il joue le petit globe de slalom. Clément Noël a 77 points de retard sur Kristoffersen à deux courses de la fin. Il aurait bon goût de faire un joli coup aujourd'hui à Fiel. Très bonne manche de Victor Mufajandet avec son gros dossard le 25. Il est 12e à 1,71. Steven Amier et Paco Rassa n'ont pas terminé leur première manche de slalom. Rendez-vous à 12h30 pour la deuxième manche.
Une précision pour les copains du rugby, quand il a un gros dossard, c'est pas qu'il a un gros sac à dos et tout ça en plus sur le dos. Hein. C'est juste que le chiffre est élevé par rapport aux autres. Hein.
C'est presque un manque de respect, ça.
C'est un manque de respect.
Ouais, non, mais là, il faut qu'on se lève, Philippe, pour régler tout ça maintenant.
Ah oui, vous n'êtes pas assez doué.
À la pause café.
Il faudra encore des postes. 10h29, on se retrouve dans quelques instants, la suite des grandes gueules du sport. Ah bah justement, ce 15 de France, est-il déjà entré dans l'histoire? Les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Cédric Hémans, Simon Dutin, Philippe Saint-André à partir de 11h. Le classique hein, de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, Marseille. Est-ce que ce classique manque de piment sportif? On se posera la question, les GG ne sont pas d'accord. Et puis on vous attend évidemment au 32-16. Sachez que dans 10 minutes, les GG contre-attaquent. Et vous savez quoi? Pascal Duprat n'a pas 8%. Ok, je dis pas s'il a gagné. Mais il n'a pas 8%, non, il me fait signe aussi. Ah, pour...
Moi, je votais, j'ai dit 6, Pascal. Je votais sur toi, j'ai appelé toute ma famille pour qu'il vote. Je t'ai senti ému, donc.
Bravo pour ce 6%. Non, c'est quand même plus. C'est plus. Vous verrez le résultat, c'est dans 10 minutes. Alors les Bleus sont de nouveau sur le toit de l'Europe, 3 ans après le Grand Chelem en 2022. On en parlait à 9h, le 15 de France a renoué avec la victoire dans ce tournoi des 6 nations. Et cette fois en année impaire, hein, donc le plus difficile. C'est la première fois depuis 18 ans que le 15 de France réussit cette performance. 3 records majeurs sont tombés. Les Bleus terminent l'édition 2025 avec 30 essais, record absolu devant l'Angleterre. Louis Bielbiaré qui a réussi donc la prouesse d'inscrire 8 essais, il a marqué à chaque match. Et puis donc Thomas Ramos qui a battu le record de points de Fred Michalak pour devenir le meilleur réalisateur de l'histoire des Bleus. Ce 15 de France est-il entré dans l'histoire? La réponse du capitaine hier soir, Grégory Aldridge, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Pour être honnête, on ne pense pas à marquer l'histoire, on pense surtout à se faire plaisir à nous, à faire plaisir aux Français. Et je peux vous assurer que le groupe est déjà déterminé pour gagner plus de matchs et plus de titres. Et on va continuer comme ça, travailler dur pour continuer à gagner. Et comme je dis, pas forcément chercher à marquer l'histoire, mais chercher à nous marquer nous et prendre du plaisir. Parce que voilà, comme je l'ai dit en conf de presse d'avant match, sur ce tournoi, on a pris énormément de plaisir. Et c'est quand même la base du sport et du rugby, c'est de prendre du plaisir, je pense.
Oui, de gagner quand même, hein. Le plaisir à nous, hein. Évidemment, le célèbre, hein. Il pourrait, Grégory Aldridge, aller dans le super Moscato Show facile. Hein. Notre débat, cette équipe est-elle déjà entrée dans l'histoire? Oui ou non? Simon Dutin?
Oui.
Cédric Hémans?
Non, mais commence.
Ok. Pascal Duprat?
Oui.
Philippe Saint-André?
Non.
C'est pas bon signe pour nous, Pascal. Ouais.
J'ai envie d'entendre ce nom tout d'abord fermé de Philippe Saint-André qui me regarde à peine parce qu'il est concentré. C'est non. C'est non, Philippe.
Non, c'est non parce que quand tu rentres dans l'histoire, c'est que non seulement tu fais des grands chelems et que tu gagnes des tournois, mais que tu domines cette équipe de France. A fait un tournoi exceptionnel, on en a parlé. La confirmation, c'est la saison prochaine. Et si la saison prochaine, dans un calendrier où tu reçois 3 fois et que tu te déplaces 2 fois, et là, tu fais le grand chelem ou tu gagnes de nouveau le tournoi destination, là, tu rentres dans l'histoire des grandes équipes de France comme 77, etc.
Mais vous qui avez tout gagné, vous avez gagné, t'as gagné beaucoup de tournois du grand chelem et tu as fait beaucoup de grands chelems. Cédric, toi, Philippe, t'as gagné les tournées, les grands chelems, les tout ça. J'ai l'impression maintenant que pour vous, rugbyman, marquer l'histoire, c'est gagner la Coupe du Monde.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que, a-t-on déjà gagné le tournoi? Oui,
Cédric.
A-t-on gagné, fait le grand chelem? Oui. Gagné des séries d'été ou d'automne? Oui. Et il nous manque que la Coupe du Monde.
Alors, dans la Coupe du Monde, on allait dire, de France. Aucune équipe n'a marqué l'histoire du rugby.
N'a marqué l'histoire, alors. Voilà.
Mais non, mais bah, marquer l'histoire, c'est d'apporter sa pierre, à l'édifice dans la galerie des trophées. Les autres l'ont fait. Les autres l'ont fait. Moi, c'est gagner la Coupe du Monde. Quand j'entends le capitaine qui dit qu'il veut pas, il dit pas ça comme ça, hein, pas marquer l'histoire. Mais si tu fais du sport de haut niveau pour bien mettre sûr ton nom sur un trophée, pour battre des records. Alors individuellement, il y en a qui ont battu des records hier soir. Mais tu gagnes et tu crées ton sport et tu fais progresser ton sport quand tu mets ton nom sur un trophée. Il n'y a pas d'autre.
Mais là, ils ont mis leur nom sur leur trophée.
Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Moi, ce que je veux dire, tu le marques quand c'est nouveau.
Vous allez dur à contrarier, vous, messieurs les rugbyman, donc on a intérêt à avoir des arguments. Je vais essayer d'en avancer des arguments.
Vas-y, quand, Pascal,
par exemple, je vais faire une comparaison avec un basketteur, Wemby. J'ai l'impression que pour l'instant, pour autant, il n'est pas rentré dans l'histoire, mais que ça va se faire. Il est en route pour l'histoire. Et donc j'ai l'impression aussi, avec cette équipe de France, qu'elle est déjà rentrée dans l'histoire, parce qu'elle a déjà gagné, quoi qu'on en dise. Et il y a eu un couac incroyable en Coupe du Monde, où elle a perdu en quart pour un point, on va pas y revenir. Mais elle est en route pour l'histoire, parce qu'elle va dominer le rugby mondial. J'ai cette sensation-là, tout simplement, parce qu'elle cabosse tout le monde.
Elle est en route.
Elle cabosse
elle
tout le monde. Voilà. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez.
Elle cabosse tout le monde. On va te raconter ce que tu veux, mais pour l'instant, tu es d'accord avec nous. Elle est en route.
Non, mais c'est pour ça que c'est difficile avec vous. Non, mais les Irlandais sont en bout de course. Allez, les Sudaf. Bah oui, les Sudaf, l'hégémonie du Sudaf, c'est peut-être terminé. Alors, le couronnement sera peut-être en 2027. Vous avez raison de le signaler. Mais pour autant, elle est déjà rentrée dans l'histoire parce que ces joueurs jouent dans le meilleur championnat du monde, parce qu'il y a un réservoir incroyable, parce que tu mets n'importe qui dans cette équipe. Et c'est peut-être là, on nous reviendra dans le débat de Galtier, où il a un choix phénoménal que jamais un sélectionneur a eu. Et on attend que ça, quoi, en fait. On a l'impression qu'on est visionnaire en regardant le 15 de France et qu'ils vont gagner. Voilà,
donc Pascal, tout. Il est d'accord avec nous, il dit elle est en route pour être dans l'histoire.
Non, mais alors, moi, je vais compléter ce que tu dis, Pascal. Moi, je vais rappeler les stats. Tout dépend à quel, tu vois, sur quelle période tu circonscris. Qu'est-ce que t'appelles l'histoire? C'est la 3e victoire dans le tournoi, Grand Chelem ou pas Grand Chelem, sur les 15 dernières années. La 5e en 20 ans. Donc, si 20 ans, ça constitue pas déjà un petit peu d'histoire. Moi, je considère que ce 15 de France, j'ai eu l'occasion d'en parler ici. Il est générationnel, tu vois, vraiment. Dans 20 ans, on se souviendra, on te dira.
Simon, ils ont fait
la bande Dupont de Tamac, on a Louis Bielbarré qui a battu un record d'essai qui datait de d'un siècle, on a Penaud qui égale la légende du rugby français, Ramos qui devient le meilleur réalisateur de l'histoire du rugby. Et puis là, je suis désolé messieurs, je vais peut-être vous agacer un peu. Moi, je considère que la densité qui existe désormais au sommet du rugby mondial, elle est incomparable. On n'a jamais eu autant d'équipes aussi fortes. On a souligné que bon, le Pays de Galles est un petit peu moins bien, d'accord, mais je le rappelle, quoi, le Grand Chelem, quand tu te déplaces trois fois, dont l'Irlande et l'Angleterre, on l'a jamais fait. On l'a fait en 87 et en 2004, on se déplaçait en Irlande et en Angleterre, mais on recevait trois fois à la maison. Moi, je pense que, alors comme Pascal, évidemment, le point final, ce sera si on remporte la Coupe du Monde, mais ce 15 de France, il est déjà dans le cœur des Français, dans l'histoire du rugby français.
Oui, t'as raison. Oui, oui et non.
Tu vois, j'ai raison.
Non, j'ai dit oui. Oui, individuellement, tu as raison, parce que Ramos, Bielbiaré, Penaud ont marqué l'histoire. Eux, ils ont marqué l'histoire. Les autres générations avant ont gagné des tournois, ont gagné des grands chelems. Ils s'inscrivent dans la continuité. C'est pas pareil. Ils s'inscrivent dans la continuité des équipes qui ont la chance de gagner quelque chose. Ils marqueront l'histoire quand ils seront champions du monde. Et après, tu as raison sur la qualité des joueurs, sur le réservoir. Là, je suis d'accord avec toi.
Non, mais elle est en train de rentrer dans l'histoire. Mais l'année prochaine, si tu fais le Grand Chelem, et si l'année d'après, après, t'es champion du monde, ce tournoi de cette année, on n'en parlera même plus.
Tu veux marquer l'histoire, c'est ce que l'Irlandais était capable de faire.
Je pense que cette équipe, et là, je suis d'accord avec toi, Pascal, il y a une génération qui est exceptionnelle. Là, ils ont montré sur une année impaire qui peuvent gagner le tournoi, mais le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Le meilleur, c'est les 24 prochains mois. On a des joueurs exceptionnels. On a une très belle génération. On a Galtier qui gère bien cette génération-là. Et je pense qu'ils vont faire maintenant des choses grandioses. Mais pour moi, Philippe, rentrer dans l'histoire,
je voudrais que tu sois précis.
C'est dominer l'Europe.
Je voudrais que tu sois précis. C'est s'ils gagnent s'ils font le grand chelem l'année prochaine ou s'ils gagnent la Coupe du Monde qu'ils rentreront dans l'histoire. Explique-moi parce que là tu m'embrouilles.
Dans mon esprit, s'ils font le grand chelem la saison prochaine, ils rentrent dans l'histoire. Pourquoi? Ils auront gagné deux tournois destination
consécutive.
Pascal, voilà. C'est les Irlandais qui avaient fait deux fois, ils étaient en passe de faire trois victoires, ce qui n'a jamais été fait. Là, ils marqueront l'histoire s'ils gagnent et ils regagnent.
Là, j'ai été interpellé par Simon Dutin où il me dit oui, mais qu'est-ce que ça veut dire marquer l'histoire dans le monde du rugby? Alors pour moi, en tête, j'ai, on va dire, les pionniers, la finale de la Coupe du Monde 87 avec Denis Charvet et d'autres. Là, pour moi, c'est une équipe qui a marqué l'histoire parce que ça a été les premiers à aller dans cette première finale de Coupe du Monde.
Il y a 77.
Ils font le grand chelem avec les 15 mêmes joueurs.
Je suis pas né, Jean-Christophe.
C'est que c'était pas du rugby à l'époque.
C'était de la soule.
Je suis pas Christophe Cessieux, j'animais pas les grandes gueules en 1977. Okay.
C'est vrai.
Mais très bien.
Moi, j'étais avec Christophe.
Voilà, toi, t'étais déjà avec Christophe. Mais bon. Ok, je te l'accorde. 77, il y a 87. Pour moi, il y a 94 avec cette célèbre tournée en Nouvelle-Zélande avec toi, Philippe. Il y a 99-2007 parce que c'est les deux exploits en Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande. Et puis après, bon, on peut aussi parler de cette finale de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, même si c'est un peu en retrait parce que ça a été un peu une surprise de les retrouver là, alors que finalement l'équipe de France a failli s'imposer. Mais voilà les temporalités du rugby, j'ai envie de dire. Et est-ce que cette génération est-ce qu'a dit Simon est très intéressant? Est-ce que on se souviendra? Imaginons, et on n'a pas du tout envie que ça s'arrête là pour le 15 de France.
Imaginons,
est-ce qu'on s'en souviendra quand même dans l'histoire comme la bande à Dupont, avec ce niveau de jeu incroyable?
On se souviendra que c'était la plus belle des générations et malheureusement.
Il y a eu le record de victoire d'affilée, il y a eu la raclée qu'on a mise aux Anglais à Twickenham, il y a eu le grand chelem en 2022.
Ça
sera une génération inaboutie.
Ils vont faire exploser les
records. C'est un titre.
Je suis d'accord, mais tu marques que quand tu fais un tir.
Après, ils vont faire exploser les records. Ramos, il a encore moins 3-4 ans de bon, il vient d'être le meilleur buteur de l'histoire du rugby. Penaud, il est au même nombre d'essais que Serge Blanco. Il a encore 3-4 ans. Je vais parler sûrement de Bielbaï. 18 sélections, 17 essais. Mais c'est incroyable. Donc on a que des mecs qui sont en train de faire péter les records. Et maintenant, on va voir l'équipe qui va rentrer dans l'histoire. Mais pour rentrer dans l'histoire, il faut dominer c'est pas un coup, il faut être
j'ai peur que vous confondiez deux choses, c'est marquer l'histoire. Il y a plusieurs 15 de France qui peuvent avoir marqué l'histoire. Vous confondez marquer l'histoire avec devenir le plus grand 15 de France de l'histoire du rugby.
Sinon, on a peur que tu comprennes que marquer l'histoire c'est pas prendre des titres.
Non, mais j'ai l'impression que vos arguments c'est pour dire ce n'est pas encore la plus grande équipe de France de l'histoire.
Mais non,
je dis pas ça, mais je dis que ce 15 de France, cette génération, elle a déjà marqué l'histoire, la grande histoire, la riche histoire du rugby français.
Mais bien sûr que tu as raison, Simon. Ils ont déjà marqué l'histoire.
Eh ben voilà.
C'est tout. Okay. Parce que tu t'attends tout le temps à ce que l'équipe de France gagne. Voilà. Parce qu'ils sont tellement incroyables que même quand ils sont en difficulté, dans le désordre, ils sont capables d'exploser n'importe quelle équipe.
Vous savez quoi? Je vous donne rendez-vous dans un an. Avec tous autour de la table, ouais. Et puis on se repose exactement la même question.
Okay. Je note.
Après le tournoi destination, vous pouvez déjà préparer l'émission, c'est dans un an, c'est cadeau.
Il est quatre même invité.
Bien sûr.
Évidemment. Ah oui,
ça me paraît évident.
C'est une certitude, j'ai envie de dire.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Qui s'est imposé? J'ai un sujet, oui, Louis Bielbiaré. J'ai un sujet biathlon féminin. J'ai Thomas Tourel qui reprend Jacques Grealish sur ses sorties nocturnes. Et puis on a un sujet Désiré Doué. Allez voter encore quelques instants et je vous donne le résultat dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h49, toujours avec Pascal Duprat, Philippe Saint-André, Simon Dutin, Cédric Emence. À partir de 11h, on ouvre le dossier classique de la Ligue 1. C'est ce soir à 20h45. Est-ce que au niveau sportif, ça manque de piment? Oui ou non, les GG ne sont pas d'accord, ce sera notre question. Mais tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin, à la dernière place. C'est Simon Dutin avec son Désiré Doué. Est-ce que ça peut devenir le chouchou du foot français? 13%.
A priori, non, il est pas parti pour vu les votes.
Suite, voilà, c'est trop tôt. Voilà, t'es en avance sur ton temps. Voilà. Dommage. Bien joué, merci pour cette proposition. Quand 23%, il a fait trois fois plus que la semaine dernière. Pascal Duprat, le suspense en biathlon féminin et pour Lou Jean Monod notamment. Bravo Pascal. Ouais, 23%.
Je partais de loin, mais c'est dommage. Je t'en aurais pas parlé du biathlon.
C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire.
C'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire. Et tu verras que la semaine prochaine, tu vas en parler.
Alors, si, de toute façon, c'était prévu dans la pub de 45, tu vois, de 10h45. Donc,
Non, je t'ai coupé ton truc.
Pas du tout. Bravo, Pascal. 23%, on en reparlera, évidemment, dans cette émission. Deuxième place pour Cédric Emmons, 25%. Est-ce que le sport est compatible avec les soirées nocturnes, la bière, l'alcool?
Dommage, c'est un sujet qui lui tenait à cœur.
Oui,
on supporte la pression avec une pointe de citron.
Voilà, à consommer avec modération.
Avec modération et tout ce qui va avec.
Voilà, avec les propos de Thomas Tuchel concernant Jack Grealish. Et c'est donc la victoire pour Bébé, non pas Brigitte Bardot, mais Louis Biel-Biarré. Est-ce que ça peut devenir la future star du 15 de France? C'est proposé par Philippe Saint-André, 39%. Bravo mon Philippe. Est-ce qu'il peut être plus grand que Dupont? On t'écoute.
Moi, je suis scotché des performances de LBB. Il n'a pas un physique de déménageur, 1m84, 80 kilos. Il n'a que 22 ans, des statistiques incroyables. Donc 19 sélections, 18 essais sur ce 6 nations, 8 essais. Alors, il a un X-factor, hein, parce que sur la vitesse, il y a lui et les autres, mais t'as l'impression que les autres vont à deux à l'heure dès qu'ils touchent un ballon. Mais surtout, où je suis impressionné, et Cédric, ancien ailier comme moi, c'est comme il s'est amélioré. Sur la dernière Coupe du Monde, il avait été en difficulté sur les duels aériens. Là, sur ce 6 nations, les duels aériens sont devenus un point fort. En défense, il a mis des tampons, que ça soit contre l'Angleterre, encore hier, il soulève deux ou trois Écossais. Et puis en plus, ce n'est pas qu'un finisseur. Hier encore, c'est lui qui crée, qui prend l'intervalle, qui fait la passe après contact.
C'est la mèche.
Pour le deuxième essai de Moefana. Et j'ai envie de dire, c'est le gendre idéal. Il est sympa, il est souriant, il est intelligent et il n'a que 22 ans.
Il joue à l'UBB en plus. Qui ne gâche
rien. Il joue à l'IBB après formé à Grenoble, quand même.
Formé au pied du Vercors.
Donc ça, c'est important.
Ah, ça, c'est élevé au grand. Voilà. Hein,
ouais. Non, mais sincèrement, j'ai rarement vu un ailier de cet âge-là avec cette maturité, cette efficacité, et il a été déterminant sur tout le 6 Nations, mais sur tout ce qu'il a fait. Et là, sincèrement, je trouvais ça exceptionnel.
Tout le monde a envie de dire chapeau à LBB, comme tu l'appelles, pour ce tournoi destination. Évidemment, il y a le niveau de jeu, mais je voudrais pas m'arrêter qu'à là sur ce débat, parce que je trouve ça très intéressant, mais il y a aussi, et tu en as parlé, ce côté gendre idéal, cette popularité grandissante, et je voudrais qu'on s'attache à ça. Est-ce que, par rapport à son jeu, par rapport à ce qu'il dégage, par rapport à son casque rouge, est-ce qu'il peut devenir plus grand qu'Antoine Dupont? Est-ce que ça, c'est encore possible, sachant que on l'a déjà mis, évidemment, sur un piédestal? Oui ou non? Est-ce que, Cédric Emmons, tu penses?
Alors, Antoine Dupont, il est déjà très très haut. Il a été rookie à 7, meilleur joueur du monde. Du moins, il a déjà coché beaucoup, beaucoup. Après, Louis Biel-Biarré est spectaculaire. Alors, côté marketing, faudrait peut-être qu'il enlève son casque pour pouvoir le reconnaître dans la rue et après faire pourquoi pas des belles pubs. Mais en tous les cas, c'est la marge de progression qu'il a eue hier quand il fait cette chandelle et qu'il récupère ce ballon. J'étais heureux pour lui parce qu'il a été décrié. Il a même été repris par l'arbitre sur un plaquage qui est limite cathédrale où il appuie fort. Mais en tous les cas, il a marqué son sport. Lui, parce qu'il est meilleur réalisateur du tournoi avec 8 essais.
J'entends, mais vous me parlez de rugby, les copains. Et vous avez raison, on parle d'un joueur de rugby. Mais moi, j'ai envie de faire un débat un peu cagole. C'est-à-dire que Dupont, il fait
il
des enfoirés.
Il n'est pas dans le cœur du jeu par rapport à
Dupont.
Dupont,
il est entré dans
le foyer des Français. C'est ce que nous, on va en faire. Je dis, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un côté marketing, qu'il enlève son casque pour qu'il soit reconnu dans la rue. Il faut qu'il y ait des marques à aller le chercher.
Mais après,
il faut.
Je pense que ce casque, c'est super. C'est pas le dénaturé, ça.
Ça fait partie de la panoplie. Moi, là, je te rejoins. Il y a un petit côté mascotte. C'est le plus jeune joueur de l'histoire du 15 de France à avoir disputé un match de Coupe du Monde, même si bon bah la Coupe du Monde il a payé pour apprendre. Mais moi là je suis pas d'accord, le casque
si
rouge.
Si on fait pareil, pareil avec Vincent Clerc, il a enlevé son casque. A... Le gendre idéal qui marquait des essais.
Non mais je sais pas, il est sympa.
Il est sympa, il a une belle gueule. Quand il enlève le casque,
il a des yeux.
Il a des petits yeux. C'est-à-dire qu'avec le casque, tu veux dire quoi, Philippe? Il est dégueulasse.
Non mais il a des petits yeux ronds comme des billes. Là on sait pas bien ce qu'il fout là. Il termine les actions. Il a ce côté bip bip quoi. Moi, il me rappelle un peu Shane Williams. Vous vous souvenez, l'ailier du Pays de Galles, en tout cas, dans les dimensions, c'est un mec, quand tu vois les proportions du joueur à côté des Golgoth, t'as du mal à te dire que tu peux exister comme ça dans le rugby.
Ben justement, ça fait aimer. Ces jeunes rugbymen, c'est ça, c'est que se dire, tu peux faire, alors je pense qu'il fait un peu plus de 80 kilos, mais tu peux pas être, c'est pas forcément être un monstre pour réussir.
C'est la magie du rugby. Hier, sur son essai, Roman Tamak, il va déjà très très vite, mais hier, au moment où il dépasse et où il prend la passe, t'as l'impression Tamak, il a la remorque et qu'il n'avance pas.
C'est incroyable. Sur l'image, Pascal, est-ce qu'il peut devenir plus grand qu'Antoine Dupont? Alors évidemment, vous me parlez de jeu, vous avez raison, on est dans les grandes gueules du sport, mais vous savez que ça compte aussi, l'image et le statut dans une équipe.
En fait, c'est difficile de répondre, mais déjà, il joue pas dans le cœur du jeu comme Dupont. Dupont, il mène le jeu de l'équipe de France et il le mène très bien depuis un long moment maintenant. Ce que je pense de Biarré, c'est que, enfin, il incarne la jeunesse, ça c'est certain. Je vois pas la signification. Et j'aimerais que Cédric il approfondisse, qu'il enlève son casque ou pas. J'ai l'impression que son casque fait partie de lui. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on le reconnaît. Donc moi je lui conseillerais plutôt de pas enlever son casque. D'accord. Si je fais un parallèle avec le foot, j'ai l'impression Biarré, il va jamais choper le cigare. Voilà.
Alors Pascal, tu nous recommandes d'aller faire ses courses ou se balader en ville avec son casque.
Non, moi je pensais que tu me... Non, j'avais pas compris. Je pensais que tu me disais qu'il fallait qu'il l'enlève sur le
terrain.
Sur le terrain.
Oui, oui. Non, mais oui, ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'il l'enlève, faut qu'il soit reconnu.
Ah, j'ai bien compris.
Il te dit en plus que maintenant, pour être reconnu au supermarché, il faut qu'il garde le casque.
Qu'il garde le casque. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il ait envie d'être reconnu. Parce qu'il a l'air d'être hyper bien structuré. Il a l'air d'être bien dans ses pompes. Et j'ai l'impression qu'il va pas changer. Si ce n'est s'améliorer encore et encore. Parce que comme l'a très bien dit Philippe, il a une qualité prédominante que personne n'a. Il va à 10 000 à l'heure, alors qu'il y en a qui vont à 8 000, mais lui il va à 10 000, donc il va plus vite que tout le monde, et il va plus vite longtemps. Et ça c'est rare.
En tout cas, j'ai bien compris que on va pas encore s'attaquer à la légende Antoine Dupont, mais peut-être qu'un jour cette question va refaire surface.
Petite remarque, le prochain sujet, je fais du Mbappé, hein. Comme ça je suis sûr de gagner.
Non, mais le PSG ça marche pas. Le PSG et le foot ça marche pas. Donc
allez, le classique justement dans quelques instants, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.